Bonjour Olivier.
Bonjour Pierre.
Donc à événement exceptionnel podcast, hein, puisque comme d'habitude et comme nous l'avions fait lors de la crise Covid, on a toujours cette volonté d'être au plus près de nos partenaires et surtout de partager nos analyses. Alors on ne va pas revenir sur les sources du conflit, hein, on va passer directement à la première question. Quelles sont d'après toi les conséquences ou les principales conséquences de ce conflit ?
Bah tout d'abord, on est au début, au milieu du conflit. Donc le risque d'escalade et de poursuite de l'escalade ne peut pas être exclu. Il est difficile d'être dans la tête de Vladimir Poutine et de savoir jusqu'où exactement il veut aller. Les premières conséquences, c'est d'abord pour les actifs financiers russes, hein, puisque la bourse russe perd plus de 50% depuis le début de l'année et le rouble a décroché de quasiment 15%. Et plus globalement, les conséquences économiques seront d'abord de nature inflationniste, puisqu'il y a un choc sur le prix des matières premières et de l'énergie. Et puis plus tard, si ce choc est durable, évidemment, un choc sur la croissance, avec l'Europe en première ligne, la première zone économique touchée. Et puis plus globalement, au niveau géopolitique, c'est quand même une marque de la baisse d'influence, de la capacité des Occidentaux à réguler les conflits géopolitiques dans le monde.
Ah oui, alors tu parlais de l'impact de cette crise sur les prix de l'énergie. Hein. Ils avaient progressé avant, ils continuent à progresser. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là ?
Bah, la première constatation, c'est que le pétrole a passé les 100 dollars pour la première fois depuis 8 ans hier, qu'on a eu des hausses des prix du gaz, notamment le gaz livrable en Europe, côté à Amsterdam, de plus de 30 ou 40%. Et que ça, c'est ennuyeux, puisque comme tu le sais, dans le mix énergétique européen, un quart de l'énergie provient du gaz et sur ce quart de l'énergie fournie par le gaz, 40% est d'origine russe. Et c'est un peu la même chose sur le pétrole puisque on estime qu'environ 25% du pétrole européen est d'origine russe. Donc une conséquence sur les prix d'énergie forcément importante et particulièrement pour la zone européenne et pour la zone euro en particulier.
Conséquence plutôt négative.
Plutôt négative, bien sûr.
Bon, tu as parlé d'énergie fossile. Qu'en est-il des autres matières premières ? Est-ce qu'il y a un impact sur d'autres matières premières ?
Alors, beaucoup de matières premières se sont envolées hier. Hein. Il faut avoir en tête que Rusal, par exemple, est le premier producteur d'aluminium en Chine, que Norilsk produit près de 25% du nickel mondial, 44% du palladium, près de 15% du platine. Il y a beaucoup de minerais essentiels, notamment à la transition énergétique et à la sortie de l'énergie carbonée, qui sont produits soit en Ukraine, soit en Russie. Donc forcément, si on rajoute les matières premières agricoles, avec notamment le blé, forcément un impact très fort sur le prix des matières premières qui, paradoxalement, pourrait renchérir le coût de la transition énergétique, puisque beaucoup de ces minerais sont nécessaires à l'électrification de nos vies.
Alors, parlons de vies aussi, parce que tu as insisté sur effectivement le mouvement négatif qu'on en a observé sur le rouble. L'euro-dollar a pas mal bougé. À quoi faut-il s'attendre ?
Il y avait une grande crainte dans le marché hier que le système SWIFT, c'est-à-dire le système de messagerie qui permet de faire des virements internationaux, soit bloqué. Il y a 11 000 banques qui sont connectées sur ce système et simplement déconnecter les banques russes aurait pu avoir de grandes conséquences sur l'ensemble des banques occidentales et, une fois de plus, les banques européennes. D'ailleurs, hier sur le marché, le secteur le plus affecté par l'invasion russe en Ukraine, eh bien, c'est le secteur bancaire européen qui perd plus de 10% sur la journée. On comprend que ce n'est pas dans la première série de mesures de rétorsion annoncées par le président Biden hier soir et par les institutions européennes. C'est donc, de ce point de vue-là, plutôt une bonne nouvelle. La deuxième chose aurait pu être que les Américains interdisent aux entreprises russes d'utiliser le dollar pour commercer. Ça aurait été très ennuyeux pour les matières premières et l'énergie. Hein. Les exportations russes, c'est en gros 50% en dollars et 30% en euros. Ça n'a pas été le cas. Donc, on peut dire que la peur d'une crise systémique sur le système financier est pour l'instant plutôt derrière nous.
Bon, il est temps de parler de ce que nous faisons, hein, puisque là, ça a été une description assez complète du tableau et d'impact qu'a cette crise sur un certain nombre de paramètres. Que faisons-nous au sein de notre gestion ?
Alors, la première chose, c'est que nous n'avons pas de titres russes en portefeuille, mais forcément, nous sommes impactés et nous sommes impactés à trois niveaux. Tout d'abord, dans nos portefeuilles, dans nos fonds, nous pouvons avoir des entreprises comme Renault, Sandvik, Danone ou même Recordati qui peuvent avoir jusqu'à 5%, 7% de leur chiffre d'affaires réalisé en Russie. Aucune ne dépasse directement 10%. C'est donc plutôt rassurant. Donc nous sommes en contact direct, comme d'habitude, hein, c'est notre métier de sélectionneur de titres, avec ces entreprises pour savoir comment elles gèrent cet événement. Et de notre point de vue, des baisses exagérées ou des confusions dans les expositions géographiques en Europe de l'Est pourraient donner des points d'entrée sur ces valeurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'exposition indirecte, c'est-à-dire à travers l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, il y aura forcément un impact sur les marges des entreprises, il y aura forcément des disruptions sur les chaînes d'approvisionnement qui ont déjà été abîmées par la séquence Covid. Et donc, il faudrait être très attentif à investir et continuer d'investir dans les entreprises qui sont capables d'augmenter leur prix pour encaisser cette hausse des entrants. Le thème du pricing power, c'était un thème de début d'année. Il est encore renforcé par cette crise russo-ukrainienne. Et puis, le troisième impact, c'est évidemment hier la baisse généralisée des marchés d'actifs risqués dans le monde, et puis l'écartement des primes de risque sur le crédit qui s'ensuit, comme à chaque fois.
Dans tout cet environnement, qu'attendent des banques centrales, en fait ? Est-ce qu'il peut y avoir une réponse différente ou un support pour les marchés à venir ?
Les banques centrales sont très ennuyées, puisqu'elles étaient en train de commencer un cycle de resserrement, qui était basé sur une inflation forte et une croissance qui était en train plutôt de ralentir en séquentiel. Et là, ces événements ne vont faire qu'augmenter ces deux piliers, c'est-à-dire qu'il va y avoir tendanciellement un peu plus d'inflation à court terme, ce qui est récessif à moyen terme, mais en tout cas, à court terme, il y aura un peu plus d'inflation. Et les risques sur la croissance au deuxième semestre sont forcément un petit peu plus forts. Donc, elles vont être un peu embêtées. Je pense qu'on peut dire, c'est que le cycle de resserrement qui était envisagé par les marchés va plutôt s'adoucir. On parlait de 7 hausses de taux aux États-Unis, ce sera peut-être un peu moins. On parlait d'une éventualité de 50 BP de hausse du taux de la Fed au mois de mars. Peut-être que ce sera que 25. Et en tout cas, il y a une zone qui sera particulièrement plus prudente. Évidemment, c'est la zone au contact du conflit, la zone européenne. Et la Banque Centrale Européenne, probablement, va revoir à la baisse ses ambitions de baisse de taille de bilan, enfin de ralentissement des achats d'actifs, voire de hausse des taux pour la fin d'année qui pourrait être repoussée à plusieurs mois. Mais là encore, il est un peu tôt pour se prononcer.
Bon, je rappelle, on est vendredi 25 février, c'est vraiment une analyse à chaud. Les choses vont évoluer dans les jours, les semaines à venir. Quels sont les éléments auxquels tu vas être particulièrement attentif et qui pourraient remettre en question en fait toute cette analyse ?
On le disait en introduction, on est qu'au début de ce conflit presque éclair qui a été déclaré dans la nuit d'hier. Évidemment, soit ça peut s'accélérer, soit ça peut s'arrêter là. Je pense qu'on sait déjà qu'il n'y aura pas de réponse armée de l'Occident, que les réponses sont à travers des sanctions économiques, et c'est l'impact de ces sanctions économiques qui ont le plus de conséquences sur la croissance mondiale, sur la croissance européenne, et donc sur les résultats des entreprises.
Bon, rapidement, qu'est-ce que ta conclusion, alors ?
Je crois que sur les marchés, statistiquement, les crises géopolitiques sont plutôt des points d'entrée. Là, je serais un petit peu plus prudent parce qu'on est, je dirais qu'on est au début, voire au milieu de la crise. On n'est pas du tout, encore à la fin. Globalement, le choc sur le prix des matières premières est quand même un choc inflationniste à court terme et plutôt un choc récessif à moyen terme. Donc, il faut faire bien attention et je pense qu'il est un peu tôt pour acheter de manière indiscriminée des indices. En revanche, des entreprises qui auraient été trop sanctionnées par les marchés du fait d'une mauvaise évaluation de la réalité du risque russe et ukrainien, ou des entreprises qu'on connaît par le passé pour leur capacité à ajuster leurs marges et à réagir dans un environnement inflationniste fort, ceux-là peut-être sont sur des points d'entrée. Donc finalement, on maintient cette conviction qu'on avait affirmée ensemble en début d'année, que c'est la qualité du résultat des entreprises qui fera la performance boursière de 2022.
Bon, donc, pour résumer très rapidement, prudence, on est très attentif à ce qui se passe. Je pense que les équipes de gestion sont aguerries, ce n'est pas leur première crise. Et surtout, on garde toujours, et je pense que ça nous a servi dans le passé, confiance dans la capacité des meilleures entreprises à s'adapter. Merci Olivier.
Merci Pierre.
L'investissement sur les marchés financiers présente un risque de perte en capital. les informations communiquées relèvent de l'avis de l'équipe de gestion au moment de l'enregistrement. Elles n'engagent aucunement la financière de l'échiquier et sont susceptibles d'évoluer dans le temps.